Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de talk show. C'est tous les mercredis de 13h30 à 14h sur Radio Judaïka Strasbourg. Aujourd'hui, on parle d'un livre. Il s'agit de Destin de femme aux éditions Ramsay. Nouvelle lauréate du prix Edgar Faure. Premier livre, premier coup de maître, je dirais. Il s'agit du livre Destin de femme aux éditions Ramsay, et l'auteur de ce livre, Valérie Pérez-Henouchi, bonjour.
Bonjour Jean, merci de me recevoir.
Avec plaisir de vous avoir aujourd'hui pour Destin de femme. Alors, on va un peu revenir sur votre carrière, Valérie Pérez-Henouchi. Vous êtes journaliste plutôt télé, on va dire, c'est votre début de carrière?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait mes études aux États-Unis et puis j'ai tout de suite commencé à travailler en télévision. Parce que je trouvais que c'était un média qui était très intéressant, dans le sens où quand j'ai fait mes études aux États-Unis, il y avait déjà des chaînes qui étaient numériques, ce qui n'existait pas en France encore. Donc ça m'a permis en fait d'avoir une meilleure appréhension de ce qui pouvait arriver après avec la télévision, la multiplication des chaînes donc. Et c'est vrai que je me suis toujours... J'ai fait un peu de radio hein, quand même, mais ma carrière est essentiellement une carrière de télé, oui.
Alors, vous êtes actuellement sur E24 News pour une émission qui s'appelle Histoire et découverte. La question que je voulais me poser en premier, c'est comment on fait la bascule entre journaliste et écrivain? Il y a eu un élément en particulier qui vous a poussé à écrire?
Ben écoutez, non, ça a été complètement naturel. C'est vrai que moi, j'écris toutes mes émissions, hein, du premier mot au dernier. Donc, j'aime beaucoup écrire. Et puis, je m'arrête jamais d'écrire. J'ai toujours des stylos sur moi.
Mais l'écriture d'un plateau, comme on dit en termes techniques, et l'écriture d'un livre, c'est pas la même.
C'est pas la même, mais si vous voulez, ce livre Destin de femme, quand on lit les récits justement de ces femmes, c'est quand même écrit de manière très journalistique. C'est-à-dire que je me suis pas encombrée j'ai été directement à l'essentiel, comme quand on fait quand on est journaliste. Donc c'est une écriture où chaque mot a été pesé, où j'ai beaucoup réfléchi pour mettre de l'intensité, et j'ai préféré justement employer la première personne du singulier parce que je me sentais très 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 concernée par la douleur de ces femmes et la souffrance de ces femmes. Il y a aussi des victoires, hein, il y a aussi beaucoup d'espoir. Mais c'est une écriture qui est extrêmement ressemblante à l'écriture journalistique. Et d'ailleurs, dans toutes les interviews que j'ai eues, on m'a fait remarquer que c'était un petit peu du reportage. Parce que non seulement on voyage, mais en plus la manière dont c'est écrit, c'est très court et chaque mot est pesé.
Alors, il y a deux parties dans votre livre particulièrement. Il y en a un très journalistique cette fois-ci. C'est un peu, on va dire, un état des lieux des droits de la femme dans le monde. Et dans ce première partie, il y a une partie qui est consacrée à la place de la femme dans la communauté juive orthodoxe. Vous avez voulu faire cet aparté pour faire quoi? Pour apporter quoi?
Mais parce que cette histoire m'a tout simplement touchée. Quand j'ai rencontré cette Rachel et qu'elle m'a raconté son histoire, j'ai été très impactée de savoir ce qui lui était arrivé. C'est une histoire qui n'est pas isolée, il y en a d'autres qui sont dans ce cas. J'aurais pu raconter l'histoire d'une Israélienne laïque ou bien d'une bédouine. D'ailleurs, j'ai quelques exemples. Et comme le livre est traduit en hébreu, je vais certainement rajouter quelques histoires israéliennes dans la traduction en hébreu. Mais c'est une histoire qui m'a touchée parce que je trouvais, si vous voulez, qu'il fallait raconter cette vie à Mehaché Harim. Maintenant, il y a des femmes qui sont très heureuses en habitant à Mehaché Harim et qui ont trouvé leur équilibre. Mais hélas, Rachel avait fait un mauvais choix depuis le début. Elle n'en veut pas du tout à son ex-mari, mais elle en veut beaucoup à cette communauté, en fait, qui savait que son mari était homosexuel et qui lui avait simplement demandé de lutter contre ses mauvais penchants. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui lui a coûté cher. Elle a payé la facture très cher, elle et ses enfants. Elle a dû partir, elle a eu un chemin de vie très compliqué parce que sortir de Mehaché Harim et ensuite venir habiter au centre de Jérusalem, où c'est pas deux villes différentes, c'est pas deux mondes, c'est carrément deux planètes quoi différentes. Mais aujourd'hui, elle s'en sort très bien et elle élève ses enfants dans le judaïsme avec des valeurs juives. Mais elle est libre, elle est profondément libre.
Alors, Valérie Pérez-Henouchi, Destin de femme aux éditions Ramsay. Il y a quand même une question que je me pose. Vous devez avoir 500 histoires prêtes à être écrites. Comment on fait le choix entre différentes histoires? il y a un ressenti, il y a une émotion. Comment vous avez fait le choix ?
Bah écoutez, en fait, toute la souffrance des femmes que j'ai pu rencontrer m'a profondément touchée. Alors d'abord, je voulais que ce soit un tour du monde parce que, en fait, ce livre, il parle de carnet de voyage que j'avais dans mes tiroirs depuis des années lorsque j'étais journaliste, même mes voyages en famille. Et par exemple, quand on va en Inde, quand j'ai rencontré Mira, bon évidemment le nom est changé, mais cette communauté des Hijra, j'ai appris énormément de choses. Donc encore une fois, l'œil journalistique est là, parce que dans chaque pays où on va, on apprend sur l'environnement social, sur les lois, et on se dit que nous, femmes libres, en tant que femmes libres, j'avais vraiment envie de donner la parole à celles qui ont moins de chance que moi. Voilà.
Alors dans le livre, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné, c'est que beaucoup de saintes femmes, il n'y a pas beaucoup de happy end, de fins heureuses. Ce sont des fois des fins tragiques. Ça aussi, c'est un choix.
C'est pas tant des fins tragiques, parce que si vous voulez, l'idée principale, c'est qu'on se sort quand même de toutes les situations, nous les femmes. C'est des histoires qui sont tellement communes. Quand je parle de la Thaïlandaise qui doit donner son enfant à l'adoption, et là, ça arrive tous les jours. Quand on parle de Saria qui attend jusqu'à l'âge de 14 ans de pouvoir un jour récupérer son fils, s'il le veut bien, et après une longue bagarre juridique, ça aussi, c'est une résilience, si vous voulez, que l'on doit connaître. Et cette femme, si vous voulez, elle va vivre comme ça pendant toutes ces années. Et elle nous explique ses émotions quand elle voit son fils une fois par semaine et qu'elle ne veut pas dormir pour profiter de chaque seconde. Mais il y a aussi des très belles fins. Par exemple, Sophia qui épouse un producteur hollywoodien alors qu'elle est jeune hôtesse au Festival de Cannes. C'est une histoire vraie. Moi, je connais Sophia. Et je peux vous dire qu'elle est très heureuse aujourd'hui à Hollywood avec son mari qui l'adore.
En même temps, il y a d'autres histoires qui sont un peu tragiques, où il y a des morts.
Des histoires, oui, mais ce sont des problématiques de femmes. Quand on voit Vanessa qui a un problème pour avoir un enfant, ça c'est des choses qui sont communes. On entend souvent des femmes qui ont du mal à avoir des enfants, qui font des filles, ça ne fonctionne pas. Puis elle, un jour, elle va complètement changer de vie, elle va complètement changer d'environnement et elle va tomber enceinte. Donc ça, si vous voulez, ce sont des espoirs. Mais ce sont, hélas, je suis contente que vous le disiez, vous, en tant qu'homme, oui, il y a beaucoup de souffrance dans les vies de femmes encore. Et c'est ça, en fait, c'est mettre le point sur ça qui était intéressant pour moi.
Combien de temps pour écrire ce livre ?
10 ans. 10 ans et vraiment à la louche. Ouais, j'ai commencé, en fait, quand j'étais directrice de communication à l'UCPF, lorsque j'ai fait un voyage au Mali, et que j'ai rencontré cette fameuse malienne qui voulait envoyer son fils pour devenir joueur de foot, parce que vous savez, en Afrique, quand on a un enfant qui est bon au foot, c'est comme un puits de pétrole. Donc elle voulait l'envoyer, et il se trouve qu'il a eu un destin absolument dramatique, puisque cet enfant dormait sous les ponts de Clignancourt à Paris. Moi, j'ai rencontré ces enfants-là, et que pour vivre, il était dealer. Donc il n'a jamais voulu retourner en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'honneur, le village s'est cotisé, pour pouvoir l'envoyer avec ses vendeurs de rêves, quoi. Et c'est vrai que ça m'a mis la puce à l'oreille. Ça, c'était la première fois que j'ai eu envie de parler des femmes et ça m'avait énormément touchée. Et puis la première histoire que j'ai écrite, c'est celle de Saria, la Libanaise, parce que j'avais une collègue qui était la cousine de cette Saria et qu'on avait suivi le mariage, on avait même aidé à choisir la robe de mariée. Et elle a appris qu'elle divorçait en fait par la poste, par procuration, parce que c'est complètement légal au Liban de divorcer sans que le mari soit présent. Et qu'en divorçant, elle perd la garde de son enfant avec qui elle avait une relation fusionnelle, parce qu'évidemment, c'était une femme au foyer qui ne travaillait pas. Et puis, on lui a enlevé son enfant du jour au lendemain. Donc, vous voyez, quand j'en parle, j'ai encore de l'émotion, parce que je me dis, si moi, j'étais née au Liban, eh ben, il me serait sans doute arrivé la même histoire.
Alors, la volonté de parler d'histoire de par le monde, c'était une volonté justement, vous vouliez ouvrir cette histoire des femmes par des femmes qui habitaient aux quatre coins du monde.
Oui. Bah, en fait, c'est parce que si vous voulez, les problématiques des femmes sont universelles. Le mariage, le divorce, le travail, le harcèlement, le viol, la maternité, voilà, tout ça, ce sont des problématiques, j'ai envie de dire, qui sont universelles, que vous soyez évidemment en Inde, ou bien que vous soyez en France, ou bien que vous soyez en Israël, ou bien que vous soyez à New York, la problématique est la même. Donc c'est ça que j'avais envie de mettre sous les projecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, une femme, même si c'est plus dur pour les unes ou pour les autres, selon leur lieu de vie, selon les endroits du monde qui sont plus reculés ou non, on a toutes les mêmes problématiques.
Valérie, une fille, quand on écrit un livre Destin de femme comme ça, on a envie que le livre serve à quelque chose et à quoi alors ?
Ah ben moi, c'est vraiment, ce livre, c'est une mission. C'est-à-dire, c'est vrai que j'étais ravie de recevoir ce prix, même plus que contente, parce que finalement, ça veut dire que les femmes sont au centre des débats et sociaux et politiques. Mais plus on va parler des destins de ces femmes, plus on va les lire, même le temps d'une lecture, plus on va savoir ce qui arrive, plus on va savoir quelle est la condition des femmes dans le monde, plus moi, ça me remplit de joie, de bonheur. Et vraiment, c'est pour ça que je le fais. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont ralliées à moi, puisqu'il y a des lectures qui ont été faites de femmes connues, justement, de ces femmes inconnues, pour faire sortir un petit peu le récit simplement du livre. Et à chaque fois que je voyais une copine lire ces histoires et faire vivre ces femmes, j'avais des frissons. Parce que pour moi, c'est ça qui est fondamental. Pour moi, ce livre, il doit servir à ça, à remettre les choses à plat. C'est pour ça qu'il y a une première partie, comme vous l'avez dit, où c'est finalement extrêmement historique, puisqu'on va parler, on parle de l'Antiquité, on parle du Moyen-Âge, on parle des temps modernes, on parle de l'époque contemporaine, et on voit justement comment le statut des femmes a évolué. Alors on se rend compte que c'était par à-coups. On se rend compte que, bah, par exemple, le divorce, il est aboli 2 fois en France, que souvent on entend que pourquoi pas réabolir le divorce. Donc voilà, rien n'est acquis, et je trouvais que c'était intéressant justement en première partie de refaire cette chronologie. Parce que c'est important de savoir exactement où on en est. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai que du haut de mon âge, je ne vais pas vous dire quel âge j'ai, j'aurais bien aimé, en étant plus jeune, adolescente, avant d'aller dans cette vie et avant de prendre des décisions, eh bien, j'aurais quand même aimé savoir quel est le statut de la femme pour savoir bien où je mets les pieds.
Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure. Que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Si drôle, sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, regard qui frôle, quelquefois si seul. Parfois elles veulent, oui, mais si seul, oui, mais si seul. Je vous aime, femme.
Valérie Pérez-Enouchi, Destin de femme aux éditions Ramsay. Ce livre a eu un véritable succès. Vous avez déjà fait, vous l'avez dit tout à l'heure, des dédicaces, des présentations de livres. Quel est le retour que vous avez des gens que vous rencontrez ?
Bah écoutez, beaucoup. Vous savez, c'est comment vous dire, le monde de l'art et de la littérature, c'est un monde qui est très bienveillant. C'est-à-dire que déjà, toutes les autrices de ma maison d'édition m'ont félicité. Il y a un engouement autour justement du statut de la femme qui est très très touchant aussi. Et puis, si vous voulez, ce que je remarque, c'est que les femmes parlent. C'est-à-dire que quand je fais une rencontre littéraire et qu'il y a des femmes qui sont très proches de moi, ben à la fin de la rencontre, elles vont venir me voir. Et elles vont me dire, vous savez, moi, j'ai vécu ça. Ou bien, vous savez, moi, j'ai eu ça. Et ça, si ça peut les aider à parler, donc si ça peut les aider à les libérer, et ben moi, j'ai fait mon travail et je suis contente. Mmh.
Vous êtes étonnée de l'accueil que vous avez reçu de ce livre ? Vous avez eu beaucoup de dédicaces, vous avez fait une grande soirée d'ouverture, vous avez fait de nombreux médias. Est-ce que quand on a tout ça, on est un peu étonné en se disant, bon, c'est le premier livre, il n'est peut-être pas totalement abouti ?
Bah écoutez, c'est une grande exaltation. C'est vrai que moi, vous savez, j'habite à Tel Aviv depuis 10 ans. Et de revoir comme ça mes amis, ces signes d'amitié, ils se sont tous déplacés, ils ont tous acheté le livre. Un nombre de partages du livre, un nombre de commentaires des gens sur Facebook à l'issue de la lecture. Je veux dire, tout ça, oui, ça me fait chaud au cœur. Enfin, moi, voilà, je vis un rêve et je profite, genre, de chaque seconde. Et puis voilà, surtout le fait de me dire que lors des rencontres littéraires, eh ben, je tombe sur des femmes qui vont me prendre en aparté et qui vont me dire, vous savez, moi, il m'est arrivé ça, j'ai été harcelée ou bien j'ai subi des choses. Et ça, le fait qu'elle parle, ça les libère. Donc moi, je suis contente.
Alors, il faut savoir également que ce livre est pour l'instant en stock épuisé. Ça aussi, c'est un plaisir pour vous ?
Ben oui, rupture de stock. Ramsay est en train de rééditer à partir du 28. Toutes les librairies seront réapprovisionnées. Sur Amazon, on peut le commander, mais il arrivera sous une semaine. Donc voilà, tout ça... C'est magique, en l'histoire de 2 semaines, tout le stock a été épuisé et Ramsay a dû réimprimer le livre. Voilà, donc ça fait partie de l'histoire magique.
J'ai une petite question à vous poser, peut-être que vous allez pouvoir me répondre quand même. La femme qui est sur la couverture, elle est magnifique, on sait de qui il s'agit, c'est une mannequin.
Alors écoutez, la couverture, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions avec mon éditeur. Au départ, on ne m'a pas du tout proposé cette couverture. C'était une couverture qui était un petit peu avec plusieurs femmes, en fait, et elle ne me touchait pas. Donc, en fait, ça, c'est une photo que j'ai trouvée magnifique. J'ai trouvé cette femme universelle. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de signe politique. J'ai trouvé qu'elle avait un regard génial. Et en fait, c'est une femme c'est une femme symbole, en réalité. C'est personne. Mais je trouvais que cette femme-là, en couverture, c'était celle qui représentait plus les femmes de ce livre.
Valérie Pérez-Enouchi, Destin de femme aux éditions Ramsay. Est-ce que on peut éventuellement penser à Destin de femme 2 ?
Peut-être Destin de femme 2. Vous savez, moi, j'ai signé un contrat avec la maison d'édition Ramsay pour réécrire un autre livre. Alors, il me laisse libre, si vous voulez, de choisir. Est-ce que ça sera un roman ? Est-ce que j'ai aussi très envie de faire un livre sur la beauté d'Israël et qui donnerait envie aux gens de venir, les sites archéologiques absolument merveilleux qu'on a ici en Israël et dont on parle peu. Destin de femme 2, oui, pourquoi pas, mais en attendant, là, je ne suis pas prête du tout parce que je savoure le premier et je ne suis pas encore redescendue de mon nuage. Donc, je pense que je m'y mettrai voilà, dans 1 ou 2 mois.
Mmh. Justement, on parlait tout à l'heure de l'accueil du public. Il y a évidemment des hommes qui sont venus vous voir sûrement. Qu'est-ce que vous disent les hommes qui viennent vous voir à la fin de vos dédicaces ? Vous en avez beaucoup ?
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des hommes qui souffrent aussi. Hein. On parle de l'histoire de Catherine, où un homme souffre énormément parce qu'on lui enlève ses enfants, parce qu'une femme, si vous voulez, l'a épousée pour son argent. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose que je mets de côté, la souffrance masculine. Je parle aussi de notre japonaise et de ces hommes que j'ai rencontrés qui souffrent énormément parce que du jour au lendemain, ils sont rentrés du travail et que leur épouse japonaise était partie avec leur enfant. Et alors là-bas, c'est un drame. Il y a eu des cas de suicide et tout. Donc, j'ai pas du tout exclu les femmes de mon livre. Ils l'ont bien marqué d'ailleurs. Et je trouvais que c'était justement très intéressant aussi que les hommes puissent lire ce livre, parce que souvent on est très loin quand on est un homme de savoir ce que peut penser ou ce que peut vivre une femme. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont encore, il y a encore des inégalités criantes, donc voilà, il faut le dire. Et je sais qu'il y a des hommes justement qui feront tout pour faire en sorte d'aller vers la parité, vers l'égalité. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de féministes qui sont des féministes comme ça, un petit peu radicales. Moi, je pense, oui, être féministe, mais féministe de raison. Aujourd'hui, voilà, moi, je donne des chiffres dans ce livre et je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Et ce chemin, on va le parcourir ensemble.
Alors, on parlait tout à l'heure de la mise en place de ce livre. Ce livre est très simple à lire. Les histoires sont toutes courtes. Pourquoi justement cette idée d'avoir des histoires plutôt courtes plutôt que de faire peut-être deux, trois histoires?
Parce que je voulais aller à l'essentiel et je voulais pas qu'il y ait de suite. Je voulais qu'on puisse s'endormir avec une histoire et puis le lendemain aller dans un autre univers. J'avais envie qu'on puisse prêter ce livre à sa copine, à sa voisine, parce que je voulais qu'il soit utile. J'ai pas eu envie. Au départ, j'ai beaucoup écrit hein, sur chaque histoire. Je me suis un petit peu comme ça évadée dans l'écriture et tout. Mais j'ai gardé un petit peu un temps similaire sur chaque voyage, de manière à ce que ce soit rapide et qu'on aille droit au but. Voilà. Donc encore une fois, comme si en télé, voilà, on rentre dans une salle de montage et puis on doit sortir un reportage avec l'essentiel du sujet. Eh ben, j'ai fait pareil pour l'écriture.
Donc il y a un vrai travail ou retravail d'écriture.
Oui.
Alors, il y a aussi une question que je voulais vous poser qui vous a été posée des milliers de fois. Est-ce que dans toutes ces histoires, il y en a une qui, on va dire, vous a touché, vous avez plus d'émotions sur une de ces histoires de femmes? Est-ce qu'il y a un destin?
Ben non, en fait, dans toutes ces femmes, je me retrouve. Par exemple, sur l'histoire de Saria, la Libanaise, ben, je me retrouve dans la maternité et je me dis, ben, si moi j'avais été à sa place, moi aussi on m'aurait enlevé mon enfant jusqu'à l'âge de 14 ans. Dans l'histoire de Mira, je me retrouve aussi parce que je me dis, bon, c'est quand même extrêmement difficile d'être transgenre dans une société comme la nôtre, et ça me fait réfléchir sur la société de la transidentité, la place de la transidentité dans une société comme par exemple la France, où on sait qu'il y a deux semaines, la loi contre la psychologie de transition a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc j'ai envie de dire bravo, mais il était temps. La maternité, voilà, le divorce, quand on a divorcé, on ne peut qu'écouter les histoires de ces femmes. L'amour non partagé, on a tous vécu ça. C'est l'histoire de Julie à New York qui tombe seule amoureuse d'un homme qui veut simplement une carte verte. Donc on évoque le mariage blanc. Toutes ces femmes ont à un moment donné quelque chose qui résonne en moi. Et en fait, je ne peux pas dire que j'en préfère une. Je pense que ce sont toutes des femmes qui représentent en fait la vie des femmes. Et cette vie des femmes, c'est vrai qu'elle n'est pas tous les jours heureuse.
Quel serait le message que vous donneriez aux éditeurs pour les pousser à acheter Destin de femmes? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous demande « Pousse-moi à lâcher ton livre ».
Ben moi, je dis qu'il faut acheter le livre parce que c'est pour moi, c'est un livre qui est fondamental quand on est une femme. Parce que si vous voulez un livre où on retrouve toute l'historique de l'évolution des droits des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Il faut aller chercher sur plusieurs sites, dans plusieurs bibliothèques, etc. Donc ça n'existe pas. Là, il y a des réponses qui sont très courtes, claires et nettes, avec des chiffres. Encore une fois, moi, si j'avais été adolescente, j'aurais bien aimé que ma mère me fasse lire ce livre. Alors évidemment, quand on est jeune, évidemment, hein, sous contrôle parental, parce qu'on évoque aussi des problèmes de viol, etc. Mais je crois que c'est très important pour savoir dans le monde dans lequel on est, de lire ce livre, de faire lire ce livre, pour finalement ne pas faire d'erreur, être un petit peu moins naïf, et surtout savoir quel est exactement le statut des femmes, et où il va falloir lutter pour avancer vers l'égalité, la parité. Vous savez, la loi de la parité en France, elle est de 40%. On n'est pas encore à 50%, donc on est encore obligé de passer par des quotas pour engager des femmes. On est obligé de passer par là. Et c'est très bien les quotas, parce que sinon on ne nous engagerait pas. Donc voilà, je pense qu'une société, pour qu'elle aille mieux, il faut maximiser le potentiel de chacun. Et c'est vraiment dommage de ne pas potentialiser les femmes, parce qu'elles ont des choses à apporter.
Alors vous avez entouré d'hommes, puisque vous êtes mariée, vous avez que des garçons, 4 garçons. Quel a été l'accueil de vos fils à l'accueil de ce livre?
Ben écoutez, vous savez, moi j'ai élevé mes enfants en étant des gentlemen. C'est-à-dire qu'il est arrivé une fois ou deux d'entendre des blagues comme ça, un petit peu salaces pour les filles. Et je me mettais très en colère parce que je leur expliquais que bon, même si on n'est plus une génération où on ouvre la porte et qu'on laisse passer les femmes, moi, si vous voulez, je pense que c'est extrêmement important d'inculquer quand on est une mère, pendant l'éducation justement, qu'une femme, il faut y faire attention et quelle est la place de l'homme et quelle est la place de la femme. Et quelques années plus tard, j'ai interviewé le fils de Simone Veil qui m'a raconté une anecdote incroyable, et il me disait, vous savez Valérie, un jour on était à table et on a dit quelque chose sur les femmes, et ma mère m'a mis un seau d'eau sur la tête parce qu'elle estimait que c'était inadmissible de parler comme ça. Et quand je suis rentrée à la maison, je dis à mes enfants, bah, écoutez maintenant, la prochaine fois que j'entends quelque chose contre les femmes, ça sera le seau d'eau comme Simone Veil, parce qu'il va falloir comprendre qu'il faut respecter les femmes. Donc très bon accueil de mes garçons, les grands sont très fiers. Les petits ont suivi vraiment l'écriture au quotidien. Ils savaient que quand j'étais dans mon bureau, c'était que j'écrivais pour des saintes femmes. Et puis, le jour de la sortie, ils se sont réveillés à leur maman. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Mmh. Voilà, donc beaucoup d'émotions, un accompagnement familial incroyable. C'est leur livre à tous.
Voilà, Valérie Pérez-Hennoussi, prix Edgar Faure 2021. Destin de femme aux éditions Ramsay. Alors évidemment, on l'a dit, je vous le répète, c'est un très beau livre, un livre qui se lit très facilement. En plus, c'est plein d'histoires, donc vous n'êtes pas obligé de lire le livre en entier. Vous pouvez prendre une histoire lundi et une autre le mardi. C'est toujours très pratique. Merci beaucoup de votre accueil et on espère vous retrouver peut-être bientôt à Strasbourg. C'est prévu.
Avec plaisir, oui, avec plaisir, vraiment. On va organiser ça, je serai ravie de venir à la rencontre justement de mes lecteurs. Et merci à vous, Jean, de m'avoir donné ce temps sur votre antenne pour parler de destin de femme. À chaque fois que j'en parle, j'ai des frissons. Voilà.
C'est avec plaisir. Merci, à très bientôt.
Au revoir, merci.
Au revoir.